Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Voici. Alors aujourd'hui, nous sommes lundi et aujourd'hui, nous avons Jamin. Jamin qui nous fait une chronique. Comment on l'appelle ? Mon humeur du jour ?
Oui,
c'est ça.
Aujourd'hui, ce sera
l'humour du jour politique.
Le mot du jour, bon, ça fait peur. Alors, je vais faire, pour ceux qui le connaissent en France, je vais faire mon Michel Drucker en disant déjà, je vous demande pardon pour ce qu'il peut dire. Voilà, je ne suis pas d'accord avec lui, je ne sais pas déjà ce qu'il va dire.
On attend.
Alors, en deuxième partie, restez avec nous. En deuxième partie, nous recevons José Senneville, qui est conseillère en orientation de Futur Proche. Futur Proche est un balado qui est destiné à aider les 14-18 ans qui s'interrogent sur leur avenir professionnel. Donc c'est parler avec un jeune qui désire faire un tel métier et puis avoir un professionnel et faire ce balado là-dessus avec
les questionnements. Poser des questions alors pour qu'elle puisse...
La personne qui fait le balado parle avec le professionnel et ensuite José donne des conseils sur la manière
mais
de
ça,
faire.
Mais je pourrais lui demander les conseils pour mon avenir professionnel.
Tu pourras lui demander, sauf que tu rentres pas dans l'âge.
Ah bah si, tu es entre 14 et 18 ans, c'est mon âge mental.
Ah bah oui, en ce qui concerne ton âge mental, tu n'atteins même pas les 14 ans. Si je puis me permettre, donc...
Oh si, quand même, sinon je ne pourrais pas parler, aligner des mots, faire des conjugaisons, des choses comme ça.
Tu plaisantes ? Dis donc, moi j'en connais qui à 7 ans se débrouillent comme des as. Alors pour l'instant, nous allons écouter Ginette Renaud qui nous chante L'Essentiel. Car comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, hors antenne, et merci pour ça, il a dit que c'était essentiel d'écouter cette émission.
Tout à fait.
Alors
donc
voilà.
On va écouter la sœur de
Donc
de
on va
Lynn.
Écouter... Ginette Renaud qui nous chante L'Essentiel. Merci.
L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver, c'est entrer dans son cœur et n'en sortir jamais, c'est recevoir autant qu'on aimerait donner, ne plus s'appartenir, en être rassuré, c'est voir la joie de l'autre. Les fendre de bonheur, mériter sa confiance et devenir meilleur. L'essentiel, c'est d'être aimé, contrairement à tout ce qu'on peut raconter. Ce n'est pas la fortune ou la célébrité qui ne sont que du vin. Et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens. Être attendu le soir et courir en chemin. Un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie, c'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil. L'essentiel, jour après jour, c'est le rire aux éclats d'un enfant qui accourt et qui nous saute au cœur en guise de bonjour. Que demander de plus quand ses bras nous entourent? Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un. Quoi qu'il puisse arriver, être un jour exilé en pays étranger et avoir dans son cœur quelqu'un qui parlait, c'est inspirer à l'autre un sentiment si fort qu'il pourrait nous survivre au-delà de la mort. C'est d'être aimé en mon amour.
Alors voilà, on sait comme c'était beau d'entendre Ginette Renaud. Merci pour ce choix, Nicolas. Et maintenant, il faut que je redescende tout doucement de mon petit nuage pour écouter Jamin Chtouki dans sa chronique politique. Allez, vas-y.
Aujourd'hui, je ne fais pas toujours des chroniques
non,
politiques.
Non, aujourd'hui,
Mais là, aujourd'hui, ouais. Donc, on est parti, mais ça va bien se passer. Hein. Legault, oui, Legault est tabou. Oui, il est tabou, et nous aussi d'ailleurs.
Mais il est tabou en deux mots ou en un seul ?
Il est tabou, et puis il est à bout, et nous aussi. Hein. Et dans les nouveaux mots interdits, eh ben, on ne doit plus dire confinement. Non, 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 c'est comme on ne doit plus dire cinéma aux Oscars. Hein. Donc, plus confinement, mais mesure de freinage, ou acte de protection, se distancier pour s'aérer. Hein. C'est un confinement
d'où
intérieur.
Ça, d'où ça sort, ça, c'est vrai ? Je ne l'ai pas lu. C'est vrai?
Non, c'est oui, lui, on pouvait plus dire ça. Et puis moi, j'ai trouvé donc c'est de nouveaux mots. Voilà, c'est un confinement intérieur, un confinement chez soi, et cela devient comme les expressions monter en haut et descendre en bas. Voilà, ça devient usuel maintenant. Hein. Eh ben oui, plus d'un an et demi d'urgence sanitaire renouvelée. Hein. Ouais. Et à l'époque, bah, c'était avec un couvre-feu temporaire, mais qui a duré 8 mois.
Hmm, voilà, c'est ça.
Les journées, on n'avait rien à craindre du virus, mais exactement à 21h31, là, le virus devenait agressif et nous attaquait. Alors, Legault et Dubé se sont fait vacciner. Ils ont dit qu'ils n'avaient rien senti. Hein, c'est ce que me dit ma femme après que je lui ai fait l'amour aussi. Legault, dont on attend tous Legault. Pour reprendre une vie plus normale, car on tourne quand même dans le même sens et depuis plus d'un an et demi, on tourne en rond. Il nous indique que ce serait pour janvier. C'est précis. Mais il ne précise pas quelle année.
Ah oui, ça peut être janvier 2023.
Voilà. Et c'est sur les conseils du directeur de la santé publique en charge du dossier Covid, Horacio Arruda. D'ailleurs, on dirait le nom d'un variant brésilien, Arruda. Ça donne confiance. Tu sais, c'est comme si on confiait le dossier du cancer à Pierre Métastase. On attend toujours les idées de Legault pour la suite. Bon, ça prend du temps, car quand il a deux idées dans la même journée, si, ça lui arrive, hein, elles se battent, se font la guerre, et il réfléchit pour savoir laquelle est une mauvaise idée et laquelle est une idée à la con. Mais comme il est pacifiste, pour ne pas avoir de conflit, pendant des mois, il n'a eu aucune idée.
C'était plus facile.
Il est présent dans tous les médias. Ce qui ne fait pas de lui un intellectuel, mais quand tous les théâtres et salles de spectacle du Québec étaient fermés, eh ben il était le seul comique québécois en spectacle à pouvoir s'exprimer. D'ailleurs, s'il était animateur météo, ce serait gris tout le temps. Je reviens sur la quarantaine des voyageurs, qui n'est pas suivie ni surveillée, c'est donc une mise sous cloche, sans cloche, par des cloches. Au Québec, nous avons un gouvernement écolo. Oui, écolo. Tant sa capacité à brasser de l'air nous assure une autonomie énergétique décarbonée. Il y a aussi le passeport vaccinal temporaire que l'on doit montrer pour pouvoir vivre normalement. Et les malades, en attente de pouvoir rentrer à l'hôpital se faire soigner, alors que d'autres ne demandent qu'à avoir leur bulletin de sortie. Alors, si nos élites gouvernementales n'y font pas attention et qu'on veuille vivre normalement, les seuls bulletins de sortie que nous allons remplir, ce seront les bulletins de vote des prochaines élections. Et d'ailleurs, en parlant d'élections, je ne pouvais pas ne pas parler de celle de Montréal.
Ah oh bah oui.
Eh bah oui.
Évidemment.
Hein, avec la réélection.
Le contraire m'aurait étonné.
Valérie Plante. Bah oui, pourquoi ? Il faut battre le fer tant qu'il est chaud, comme on dit. Hein. J'avoue, je suis déçu. Bon, ce n'est que mon opinion, mais bon, je respecte énormément le vote démocratique. Mais dans l'histoire, aucun maire d'une ville importante comme Montréal ne peut vraiment imposer sa vision et faire les changements qu'il souhaite faire en un seul mandat. Donc Valérie Plante dispose maintenant de 4 années supplémentaires pour aller plus loin. Est-ce que cela veut dire que ce deuxième mandat se fera dans l'allégresse et la quiétude ? Je ne le crois pas. Parmi ceux et celles qui ont voté pour elle, on retrouve bien sûr les militants de la première heure. Car contrairement à Denis Coderre, Valérie Plante a pu compter sur une base de fervents et fidèles supporters pour mener sa campagne. Mais il y a aussi ceux qui n'avaient pas envie de voter pour Denis Coderre et qui ont mis une croix à côté du nom de Valérie Plante, faute de troisième voie valable.
Ah ceux-là,
oui, il y avait Balarama qui faisait partie de ceux que... Bon, il y en avait un petit peu plus, mais bon. Donc ceux-là continueront d'être des chiens de garde dans sa gestion au cours des prochaines années. Mais elle devrait le faire avec une voix critique sans doute plus présente. Alors, il y avait deux visions politiques, hein, diamétralement opposées. Plante, qui veut un village Montréal, centré sur les vélos, quitte à tuer le centre-ville. Car avec tous les travaux, les pistes cyclables, les suppressions de places de stationnement, l'augmentation de l'insécurité et de l'itinérance, il est devenu tellement complexe de circuler à Montréal que cela crée un exode de familles vers les banlieues et le dégoût des gens de venir en centre-ville. De l'autre bord, Coderre, qui veut une ville rayonnante à l'international, où il est bon de faire des affaires, de remonter la croissance économique, d'en faire une des villes les plus importantes du Canada, d'attirer les événements les plus prestigieux, de redynamiser le centre-ville, de combattre efficacement l'insécurité et l'itinérance. Tout cela aurait attiré plus de familles, d'investisseurs et de vie à Montréal, qui se meurt lentement. Valérie Plante a dit que si elle était réélue, elle voudrait travailler sur deux choses, la proximité avec les citoyens et une plus grande consultation. J'ai été étonné de cette phrase et de cette introspection venant de sa part. Espérons que ce n'était pas des paroles en l'air et qu'elle adoptera cette manière de faire, car cela a terriblement manqué à certaines prises de décision durant son premier mandat. Denis Coderre, vieux routier de la politique, connaissant ses dossiers sur le bout des doigts, il voulait retrouver Montréal, celle qu'il a mise sur la map internationale et rendue rayonnante. Une ville qu'il aime manifestement et qu'il était prêt à servir pour 4 autres années, quitte à diminuer son salaire. Ça mérite tout notre respect. Et pour Denis Coderre, ça rend la défaite encore plus amère. Son avenir reste flou. Le plan B serait d'abandonner son parti pour agir en tant que consultant dans le secteur privé. Un choix sans doute moins douloureux et pas mal plus payant, comme on a pu le constater la semaine dernière. Il faut absolument se parler du désolant taux de participation à Montréal. Savez-vous à combien il était ?
Pas du tout.
Il est à environ 34%.
Wow.
34%. Un tiers seulement des Montréalais.
Wow.
Alors, je comprends que nous sortons d'une élection fédérale, que nous sommes toujours plongés dans une pandémie et que nous entrons dans l'hiver, mais avec une lutte à deux aussi chaude qui concerne notre quotidien de citoyen, cette faible mobilisation est inadmissible. Pour moi, le vote doit être obligatoire. Par devoir de mémoire pour nos aïeux qui se sont battus et qui sont morts pour la démocratie et notre mode de vie actuel. Combien de pays dans le monde voudraient avoir notre modèle démocratique, pouvoir donner son opinion sans être emprisonné, torturé ou tué, choisir librement ses représentants politiques et non pas avec un flingue sur la tempe. Nous sommes des privilégiés qui ne s'en rendent plus compte, qui se plaignent sans cesse, mais qui ne sommes pas capables de faire le seul geste essentiel, démocratique, gratuit, qui est de donner son opinion pour être gouverné. Et ces mêmes personnes vont être les premières à manifester dans la rue dès que les politiques vont faire quelque chose qui va les déranger. Alors moi je dis, tu as voté ? Ok, tu as le droit d'exprimer ton opinion ou ton désaccord. Tu n'as pas voté ? Ferme ta gueule. Fous-nous la paix. Et voilà le résultat. 66% des Montréalais n'ont pas voté. 66% n'ont pas voté. Deux tiers des Montréalais quand même. C'est énorme. Mais cela veut dire aussi que Plante n'a été réélu qu'avec 18% de Montréalais en réalité. Moins de 1 Montréalais sur 5. Ça fait pas beaucoup. En fait, ça fait rien du tout. Depuis des mois, les sondages nous ont dit qu'une large proportion de la population était indécise. Ces personnes étaient-elles indécises ? Ou n'avaient-elles pas l'intention d'aller voter ? Ou n'ont pas été convaincus par les candidats politiques. En tout cas, cela annonce un mandat très peu serein, très critique et controversé.
Musique, on en reparle tout de suite après.
We'll be right back. des quoi, des jours qui ne reviendront pas.
Alors, on vient d'entendre Ariane Moffat qui nous chantait Nostalgie des jours qui tombent.
Ah, ça
voilà.
Tombe bien, ça, Nostalgie.
Des jours qui nous manquent. Merci, Nicolas. Voilà, des jours qui nous manquent. Alors, pour revenir sur ta chronique, eh bien, écoute, après, il est vrai que ça fait un tout petit pourcentage de Montréalais, mais c'est Montréalais qui n'ont pas voté, n'ont pas non plus soutenu Denis Coderre, sinon ils seraient venus voter.
On n'en sait rien, c'est pour ça que.
Ou alors
tu
ils
sais
ont
pas.
Peut-être cru qu'il allait gagner, puis ils ne sont pas, ils
je
sont
pense
pas
même
déplacés.
Pas que c'est ça ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est pas qu'il y en a qui. Je ne peux pas. Comment je vais dire, c'est plus peut-être une sorte d'opinion, parce que je n'ai pas de suffisamment de recul de chiffres, de statistiques. C'est pour ça que là, j'essaie de rester sur du constat et du concret. Je ne voudrais pas être parti pris pour l'un pour l'autre. Hein. J'ai expliqué ce qu'ils faisaient l'un, oui. L'un et l'autre. Hein. Juste, je constate qu'il n'y a que 18%. Elle a été élue que par 18%. Le pourquoi du comment, ce n'est pas à moi de savoir, c'est à eux. C'est pourquoi ils n'ont pas su faire venir les gens, les faire voter. C'est ça que j'explique. Les sondages disaient qu'ils étaient indécis, mais ils sont indécis. Et c'est parce qu'ils n'avaient pas envie de voter, parce qu'avec la pandémie, le machin, etc., les gens n'ont pas eu envie, ou est-ce que les politiques ne sont pas arrivés à les convaincre? J'ai dit les politiques,
oui,
j'ai
oui,
pas précisé
oui.
Qui. Moi, je pense plutôt que c'est ça, c'est qu'on n'est pas arrivé. Moi, je suis désolé, j'ai eu plus d'infos sur la campagne électorale fédérale, sur les partis, etc., que la campagne de Montréal, à part des panneaux dans la rue. Est-ce que tu as vu, toi, une émission, un machin, etc.? Les débats, c'était quasiment en huis clos, à part un peu dans la presse. Je suis désolé, moi, on n'a pas vu de campagne.
J'ai vu vaguement à la télé Coderre passer, être invité sur des trucs. Je n'ai pas vu Valérie Plante, par contre.
Oui, mais ce n'est pas dans les grandes heures d'écoute, dans les grands machins, etc. Donc, je veux dire, on n'a pas eu une campagne électorale, je trouve, digne de ce nom.
D'accord.
Elle a été passée à l'as. C'est certain qu'un mois après une campagne fédérale, mais ils auraient dû justement en profiter. Mais je pense que c'est pour ça que ça n'a pas mobilisé les gens. Et Valérie Plante a une force, c'est qu'elle a une base qui est solide et qui va aller voter quoi qu'il se passe. Et c'est cette base-là qu'elle a. Mais on n'a pas eu le reste. Et moi, j'aurais voulu avoir l'opinion du reste. Et c'est pour ça que je disais, il aurait été bien d'avoir le vote obligatoire, parce que là, on aurait une vraie lecture de ce que c'est et non pas juste un focus sur un point. Voilà, 18%, oui. Pour moi, ce n'est pas représentatif. Et souvent, en géopolitique, en histoire, quand tu n'as pas été élu avec une grande majorité, ça amène des troubles. Des troubles, c'est pas, je ne veux pas dire que ça va partir en cacahuète, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais du mécontentement, des gens qui vont râler, des machins, etc. Parce que bah, elle ne fait que, là, pour le moment, avec 18% qui sont représentés. Il en manque 72%.
Ah oui,
ça fait
beaucoup. Tout dépend comment elle va se servir des 4 années qui arrivent.
Tout à fait.
Et ce qu'elle va faire. Donc, si elle bouge dans le sens de la majorité, on va dire, bah, écoute, il n'y aura rien. Il n'y aura pas plus de bruit que ça, puis c'est tout.
Oh, on ne peut pas prédire l'avenir. On va regarder. Mais si elle continue effectivement dans sa ligne de conduite, elle a déjà bien tué Montréal, elle va continuer, c'est certain. Parce que, comme je l'ai dit, c'est la vision de faire un village d'une ville cosmopolite. Non, si tu veux un village, va à Longueuil, va à Laval, va... Non, Montréal, c'est une ville internationale, c'est comme Toronto, Vancouver. Ou alors, après, dites pas que vous voulez avoir une grande ville internationale au Québec. Parce qu'il n'y en a pas d'autres, hein. Et moi, c'est ça que je reproche, en fait. C'est que moi, je suis arrivé en 2015, 2016, c'était fabuleux, ça bougeait de partout. On venait de partout dans le monde, à Montréal, etc. Là, il n'y a rien. Hein. Et qu'on ne vienne pas me dire que c'est le Covid, parce que j'ai des copains qui sont en Toronto ou à Vancouver, ça revit. Il n'y a pas trop, y a que Montréal qui ne revit pas. Et moi, c'est ça que... Et je le vois, hein, je suis directeur de théâtre. Aller voir les restaurants, les bars. Ah oui, ils ont récupéré la distance, etc. Le problème, ils n'ont pas récupéré le monde. Et c'est pas que le Covid. Oui. Donc, on est dans une logique qui, à mon sens, ne correspond pas à la logique d'une grande ville. Mais ça, ce n'est que mon opinion. On verra dans le temps. Mais là, pour le moment, c'est basé sur des faits.
Oui. Après, peut-être que dans ceux qui n'ont pas voté, il y en a qui ne souhaitent pas avoir une grande ville internationale aussi.
Alors, on n'habite pas Montréal. Excuse-moi, n'habite pas Montréal.
Oui.
C'est une ville internationale.
Il y en a plein qui s'en vont.
Il y a
plein de gens qui s'en vont pour aller habiter en campagne. Il y a eu
en campagne. Oui,
il y a
mais
eu
d'habitude.
Gros déménagement.
Non,
les,
mais il y en a
prix
toujours.
Des maisons à l'extérieur, ça m'a halluciné de voir qu'elles ont triplé quoi.
Il y a toujours eu des départs, mais c'était compensé par les arrivées. Le problème, c'est qu'à cause de la pandémie, on n'a
ah
pas
oui,
eu les arrivées,
oui.
Donc on a vu que les départs. De nouveau, c'est faussé. C'est pas vrai. Il y a toujours eu des gens qui sont partis parce que d'un appartement sont partis à une maison parce que ils en avaient marre. Ils vont avoir plus grand, etc. Mais ça compensait par des arrivées, par de l'immigration ou autre. Là, on n'a plus cette immigration. Donc, on n'a vu que le départ. On n'a pas vu les gens qui normalement devaient revenir. On est dans une période difficile. Et on devient sérieux là, attention, ouais, on va commencer à faire chier les gens là.
Non, mais c'est vrai.
Mais c'est intéressant, je peux parler sérieusement parfois.
Je t'écoute avec attention parce qu'il est vrai que oui, ça peut être ça aussi, mais bon.
Ben, tout ça, c'est pour dire que c'était pas forcément sur le résultat. Moi, c'était sur vraiment. Moi, c'est l'abstention qui. Et ça m'a toujours.
Bah oui, puisque dans ton pays d'origine, oui, parce que chez moi, il y a du vote obligatoire.
C'est obligatoire. Et puis, comme je le dis, devoir de mémoire, des gens se sont battus. Tu vois, en Afrique centrale, etc. T'as vu les coups d'État, les machins, etc. Les pauvres, le Sahel, ils ont les djihadistes, ils ont les machins. Eux, ils voudraient Hong Kong qui a été repris par les Chinois.
N'en parlons plus. Restons-en là. Finissons là. Tu deviens trop sérieux. Et tu vois comme Nicolas a bien fait sans savoir ce que tu allais nous dire, comment il a bien choisi les chansons. Parce que là, on va entendre deux frères qui nous chantent « Guérir nos mémoires ».
Ah ben voilà.
C'est pas top,
la mémoire de nos pères.
Il y avait le monde à refaire. On se parlait dans le blanc des yeux. Malgré les points de vue contraires, on était chum, c'était sérieux. Pas de vieilles histoires sous le tapis, on se disait toutes sans rien dire. Tu faisais partie de ma vie, il en restait long à écrire. L'as-tu vu venir par la fenêtre, que ça arrêterait un jour la fête, pour des raisons qu'on sait plus, en chemin on s'est perdu. Toutes les saisons qui passent n'arrangent pas notre histoire. On s'est perdu quelque part. Il serait peut-être temps de guérir nos mémoires. Il arrive que dans l'espace il y a des âmes qui s'égarent. On se revoit-tu quelque part? T'en es où avec ça? J'ai dû retourner ma veste, je comprenais plus tes couleurs. C'était pour mon but qu'on se blesse, mais fallait se trouver ailleurs. L'as-tu vu venir par la fenêtre, que s'arrêterait un jour la fête, pour des raisons qu'on sait plus, en chemin on s'est perdu. Toutes les saisons qui passent
Alors maintenant, ben, on reste pour la prochaine demi-heure, parce que pour la prochaine demi-heure, on va parler orientation. On va parler de futurs
sens
proches.
Sens de l'orientation.
Non, pas sens de l'orientation, parce qu'à ce moment-là, c'est moi qui m'inscris.
25 minutes, je vais être con maintenant pendant la demi-heure qui vient.
C'est moi qui m'inscris. Mais là, c'est un balado qui est destiné aux 14-18 ans, tu sais, qui pensent avoir un avenir, et je leur souhaite. Je leur souhaite le meilleur et qui se cherchent dans cet avenir-là. Donc, on en parle avec José Senneville dans un instant.
D'accord. Voilà.
Donc, tu auras le droit de poser des questions puisque 14 ans est à peine le début de l'âge que peut avoir ton cerveau.
Geneviève Senneville et Germain Senneville.
Merci.
Tout va bien.
C'est joli. Merci Nicolas. Restez avec nous, à tout de suite.
Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah.
Et on vient d'écouter Dead Cab for Cutie, j'espère que j'ai bien prononcé, de Cause and Keys. C'est
toi,
ça
toi, t'as fait
Dead
français.
Cab for Cutie.
Voilà.
Voilà.
Parce que toi, t'as fait français deuxième langue, c'est ça hein.
Français deuxième langue, français même première langue. Je m'en fous, je fais mon émission comme je veux. On est avec José Senneville, bonjour José.
Bonjour.
Vous rendez des comptes, ils sont déjà en train de se moquer de moi et de mon accent.
Ah, oh, mais moi, j'adore votre accent.
Merci. Merci, José.
Je trouve ça très exotique. Moi, j'ai un accent gaspésien, mais...
je vais parler qu'avec vous, et vous, les garçons, ben, je vous parle pas. Voilà. Alors, José, parlons un petit peu de futur proche. Alors, je suis allée... Alors, j'ai pas écouté toutes les capsules. J'ai écouté des capsules qui m'intéressaient, moi, qui venaient me chercher plus. C'est-à-dire, bien sûr, j'ai commencé avec Décrocher les étoiles. Wow.
D'accord, oui.
Avec l'histoire du télescope, avec la science. J'ai aimé ce qu'a dit votre invité. Je vais vous laisser en parler puis vous expliquer quelle est la mission de Futur Proche. Mais j'ai aimé qu'elle dise. J'ai aimé particulièrement cet extrait où la scientifique dit la science. C'est pas coulé dans le béton. Ça fonctionne en changement d'idée. C'est pas toujours linéaire. Ça peut, on peut annoncer quelque chose et ça peut être autre chose plus tard. Et ben ça, faudrait bien que tout le monde le sache, quoi.
Absolument.
Voilà.
Absolument.
C'était juste ce que je voulais dire.
C'est très bien. Comme, ben, je trouve ça bien que, parce que d'emblée, le balado est destiné à des jeunes. Puis, je connais pas votre âge, mais ce que j'entends, c'est que...
22 ans.
J'ai déjà des petits-enfants, alors je vous dis tout de suite que...
Mais ça, c'était l'âge des petits-enfants, c'est ça?
Non, pas encore, n'exagérons rien.
Comme quoi, l'orientation, c'est un processus qui se déroule tout au long de la vie.
Ah oui?
Et Futur Proche, c'est ça, hein, c'est des parcours qui sont inspirants. Et je trouve ça intéressant que vous, comme adulte, vous êtes senti interpellée par son discours à elle, qui est l'une parmi les huit épisodes différents. Là.
Mais j'en ai écouté 3 pour vous dire la vérité.
OK.
Je suis passée des étoiles à la Terre et à trouver son X.
Oui, je serais curieuse de vous poser des questions.
Vous pourrez me poser des questions, mais allons-y.
Oui. Oui, ben, qu'est-ce qui résonnait en vous pour diriger un peu votre intérêt vers ces épisodes-là en particulier? Tu sais, il y a quelque chose qui résonne en soi, peu importe notre âge, hein, qui nous interpelle.
Eh ben, oui? c'est fait aussi dans la présentation que vous en faites. Bon, d'abord, décrocher les étoiles. Déjà, ça m'a amené à rêver. Je rêve d'avoir un télescope. Je trouvais ça génial. Et puis j'ai trouvé que la personne, je ne sais plus son nom, je m'en excuse, l'invitée que vous aviez, était super intéressante, passionnante, qu'elle expliquait bien les choses. Donc, je trouvais ça très intéressant. Et puis après, c'était la question de l'agriculture, parce que ben pour moi, on parle de tas de métiers, on parle de tas de choses à faire, mais l'important, c'est la terre. Bon sang, sans elle, on ne peut pas vivre. On peut faire tout ce qu'on veut, on ne peut pas vivre. Donc, il faut en prendre soin, il faut... l'agriculture a un rôle à jouer. C'était ça qui m'avait... Et puis après, en ce qui concerne... Alors, je trouve que la peur trouve son origine dans le manque d'éducation. Donc l'éducation, c'est hyper important. Voilà pourquoi c'est venu m'allumer.
La peur vient de l'ignorance,
on manque d'éducation, on ne sait pas, et voilà. Et donc c'est ça qui est venu me chercher en me disant, ça fait aussi partie des choses dont on a un besoin intense. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Est-ce que j'ai répondu à vos questions?
Oui, absolument. Ben voilà ce qui a résonné en vous. Puis c'est ce qui est intéressant avec le balado Futur Proche, c'est que justement, on a des thématiques qui sont variées et on n'a pas la prétention de penser que les personnes vont écouter toutes les huit épisodes, parce qu'il y en a 8 pour le moment.
Oui.
Mais chacun va se sentir interpellé par un thème en particulier, un parcours inspirant, une quête. Puis, un aspect, moi, j'y ai apporté ma lunette de conseillère d'orientation, peut-être un peu une méta-analyse de la quête du jeune avec le parcours inspirant du professionnel qui a été choisi pour représenter différents secteurs. Alors, c'était une belle, très belle initiative. C'est un très beau projet auquel j'ai adoré collaborer.
Comment vous choisissez donc les adolescents qui vous posent la question, qui sont en questionnement?
Oui, il y a toute une équipe de production qui était derrière tout ça. C'est Coyote Audio, qui est une entreprise qui se spécialise dans la création de balados, en collaboration avec Calido, qui est un service de placement pour... entre autres pour les études post-secondaires. Et c'est un travail d'équipe de trouver quels sont les parcours, le type de professionnel qu'on a envie d'entendre parler. Puis ensuite, c'est de regarder un peu dans notre entourage, chacune des personnes de l'équipe, d'aller d'aller, est-ce qu'on connaît des jeunes, est-ce qu'on a entendu parler de jeunes, est-ce qu'il y a des jeunes qui se sentent interpellés, qui ont envie de nous partager leur quête. Alors, on a beaucoup fonctionné un peu par notre réseau de contact pour les jeunes. Et par la suite, bien, pour les professionnels, là, ça a été un travail un peu plus de recherchistes, de gens qui travaillaient à la réalisation, des gens qui travaillaient à la production, qui sont allés à la quête vraiment... à la quête de professionnels qui sont inspirants et qui auraient envie de partager leur parcours, justement.
Ah ben oui, puis ils sont vraiment... Enfin, en tout cas, moi, les trois que j'ai entendus, je les ai trouvés inspirants. Alors,
oui, tout à fait. Puis avec l'animation, avec Valérie Chevalier oui. À l'animation, je trouve que ça a été... c'était bien enveloppé. C'était bien apporté. Puis ça... Il faut dire aussi que l'orientation, le public cible, ce sont les jeunes. Donc,
oui, je comprends, mais on peut tous l'entendre parce que ça peut nous aider aussi à parler à nos enfants. Oui. Ça peut aussi faire, voilà, et puis nous inciter à nous parce que nous aussi, on peut être en recherche d'autres choses et qui sait.
Oui, absolument. Hein? Oui, puis tout à fait, hein, comme vous le dites, l'orientation, c'est un processus qui se déroule tout au long de la vie.
Oui,
alors,
c'est
ce
ça.
N'est pas une question qu'on règle à 16 ans, 17 ans, quand vient le choix de, puis, de faire voilà. Un choix d'études post-secondaires. Voilà.
On sait que des fois, on n'est pas toujours, toujours à l'âge où on peut choisir, parce qu'il y a des tas de choses qui peuvent arriver dans les années qui suivent. Mais on s'en parle dans un petit instant. On va faire une pause musicale. Restez avec nous, José, puis on revient tout de suite après. On écoute Garou qui nous chante « Passe ta route ».
Je pourrais te parler de ces ailes d'or qui font voyager mon âme et mon décor. Si tu n'y crois pas, passe ta route. Te parler de voiliers au milieu du ciel, d'océans de velours et de vents éternels. Si tu n'y crois pas, passe ta route. Et si tu suis mes doux, soleils si blancs qui te font plonger dans des fleuves d'argent. Si tu n'y crois pas, passe ta route. Mais si tu suis mes doutes et mes voyages, compagnon fidèle mais pas trop sage, I love you. I love you. Si tu comprends mes palais de corail où je vais rêver quand la vie me fait mal. Si tu n'y crois pas, passe ta route. Mais si tu suis mes doux, ces ailes d'or qui font voyager ton âme et ton décor.
Et voilà, donc on est toujours avec José Senneville. Bonjour José, rebonjour avec nous. Vous êtes toujours là?
Oui, je suis.
Allô,
toujours
José.
Là. Si je peux me permettre un petit commentaire.
Oui.
je trouve que la chanson est très appropriée dans le contexte de l'entrevue.
Oui, alors justement, c'est notre technicien Nicolas qui a trouvé cette chanson. Et alors,
il a été bien orienté.
Il a été bien orienté, mais justement, je voulais vous parler de ça. C'est pour ça que je voulais le faire intervenir. Quand vous dites que c'est destiné à aider les 14-18 ans, avec Germain, nous sommes en studio et on se disait hors antenne que c'est quand même un peu tôt pour savoir ce qu'on veut faire. Et comme le plus jeune d'entre nous, mais vraiment, vraiment plus jeune, c'est Nicolas, je voulais le faire rentrer en onde pour lui demander, Nicolas, toi, dès que tu avais 14 ans, tu savais déjà vers quoi tu voulais te tourner ?
Aucunement.
Ah voilà, c'est ça.
Moi, à chaque année, ça changeait. Ouais. Et dans mes 3 dernières années du secondaire, j'avais aucune idée. Je sentais qu'il fallait que je fasse un choix au cégep.
Ouais.
Et même encore aujourd'hui, ça change de temps en temps.
C'est
je
ça.
Me dis,
c'est
ah, j'aimerais ça faire ça, j'aimerais ça faire ça. Mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on veut faire, je pense.
Voilà.
Oui, absolument. Puis ça, c'est tout à fait normal. On dit qu'il s'adresse aux 14-18 ans. En fait, c'est pas tant pour les orienter que les inspirer. Leur donner...
D'accord.
Oui, c'est pour
leur donner le goût d'un métier peut-être auquel ils n'auraient pas pensé. Excusez-moi, je vous ai coupé.
Oui, peut-être un métier auquel ils n'auraient pas pensé, mais c'est pas juste ça. En fait, ce qui est intéressant derrière les épisodes, c'est que on va à la rencontre de quelqu'un qui nous parle de son métier, mais le métier est accessoire un peu, parce que dans le fond, ce qui nous intéresse, c'est comment la personne s'y est prise pour trouver sa voie.
Ah oui,
et,
d'accord.
Oui, voilà. Donc, quand on parle, par exemple, de l'agriculture, on a un épisode d'une juriste, d'un pilote, d'un enseignant, d'un neurologue, d'une femme qui est gestionnaire en construction. Oui, on entend, ils nous parlent d'un métier, ils le mettent un peu en lumière, mais il y a tellement de métiers et professions et les 14-18 ans vont être exposés à des métiers et professions qui n'existent même pas encore aujourd'hui. Alors, l'objectif, c'est vraiment plus de les mettre en lien avec comment la personne s'y est prise pour être en contact avec sa passion, avec son rêve, comment elle est parvenue à incarner une intention, une étincelle, une aptitude.
Oui.
Voilà.
Quelque chose qui allume. Ça fait, vous êtes conseillère en orientation depuis combien de temps?
J'entame ma 22e année.
Vous entamez votre 22e année. Donc, au cours de ces 22 années, est-ce que vous vous êtes rendu compte que, par exemple, un balado comme Futur Proche était plus aidant que des moments, des réunions avec, peut-être des fois même avec leurs parents, des élèves?
Ouais.
Ou est-ce que ça apportait un plus?
Ben, moi, ce que je pense, c'est que les jeunes sont en quête de modèles. Les jeunes sont en quête de gens qui peuvent être inspirants, les inspirer.
Mais des fois, ceux qui les inspirent ne sont pas toujours... Pas accessible. J'ai l'impression, en tout cas, j'en vois certains. Je parle que de ce que je connais. Hein, je parle pas de ceux que je connais pas. Les voir avoir envie de quelque chose parce que c'est ce quelque chose qui leur apporte de l'argent. Peut-être pas ce quelque chose qui va leur apporter le bonheur du travail qu'ils ont envie de vivre. C'est ça que je veux dire.
Oui, je comprends. Oui, je comprends. Donc, c'est vraiment dans l'intention, je ne sais pas si je vais bien répondre à votre question, mais c'est vraiment dans l'intention d'élargir leurs horizons.
Oui.
C'est vraiment dans l'intention de leur dire, écoute, ouvre tes œillères, ouvre-toi grand les yeux.
Oui, puis leur dire aussi qu'ils ont le droit de rêver n'importe quoi.
Oui, vous avez le droit de rêver. Et savez-vous quoi? C'est pas à 14. Puis je l'ai dit, moi, à titre d'intervention, là, dans les différentes capsules.
Oui.
Je l'ai dit de différentes façons. Mais ce n'est pas à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans qu'on se découvre, voilà ce que je veux faire dans la vie. C'est un processus qui se déploie au gré des expériences, au gré des rencontres, au gré des essais, des erreurs qu'on peut faire. Puis c'est d'aller chercher l'aide professionnelle qu'on a besoin par moment, à des moments clés, à des moments charnières pour nous aider à faire le point sur ce qu'on est. Puis quand j'entendais un de vos collègues tout à l'heure qui disait, ben moi à 14 ans, quand je ne savais pas durant toutes mes années du secondaire,
c'est Nicolas.
C'est normal. Oui, oui. Nicolas, oui, voilà. Moi, ce que j'amène quand je travaille avec les jeunes, parce que je travaille principalement avec des jeunes, c'est de les amener à tolérer une forme d'incertitude, mais de travailler toujours à revenir à la base. Qui je suis, moi?
Oui.
Quelles sont mes aspirations? quelles sont les valeurs qui m'animent, qui me mettent en mouvement. Et quand on pense à un métier, une profession, c'est une représentation de quelque chose pour toi, mais ça représente quoi pour toi?
Oui,
quand
ça.
Tu me dis que tu veux être médecin, OK, pour toi, le médecin, c'est un peu l'Everest de tes aspirations, mais ça représente quoi pour toi d'être médecin? Et c'est là qu'on décline un peu puis qu'on vient en contact avec les valeurs profondes. Ben moi, j'ai envie de soigner, j'ai envie de me sentir utile, je m'intéresse à la science. OK, d'accord, voilà notre filon avec voilà. lequel on doit travailler.
Voilà, parce qu'en fait, on peut prendre... Il est possible aussi d'avoir envie d'un métier qui paraît inaccessible, mais or ce métier-là, il y a plein d'avenues qui peuvent amener à travailler dans le scientifique d'une autre manière. Enfin, si on prend le scientifique, si on prend la Terre, c'est pareil. Enfin, je veux dire, pour tout.
Voilà. Puis les balados sont cette forme de bougie d'allumage un peu pour éveiller la curiosité des jeunes, pour aller s'informer, aller rencontrer des professionnels de l'orientation, les amener un peu à réfléchir, à s'ouvrir et à croire en quelque chose et en un rêve qui peut être possible. Alors, c'est sûr que les gens qui ont été triés, c'est des gens qui ont atteint un haut niveau de fonctionnement et de haute réalisation dans leur domaine. Alors, même si c'est pas l'objectif ultime de chacun, dépendamment de la valeur que le travail occupe dans ta vie, ben, ça peut quand même t'inspirer. Ah, cette personne-là qui est prise de telle façon.
Ben oui.
Elle a fait telle expérience pour se découvrir. Parce que on a, par exemple, l'enseignement a trouvé son X. On a vu que il est allé par plusieurs chemins avant de trouver sa voie.
Oui,
souvent, c'est ce que j'allais dire. Et puis souvent,
c'est formidable.
Aussi, ça vient souvent aussi par rapport à des rencontres. C'est que quand on est jeune, on ne sait pas, on a des visions, on a des envies, on a des rêves, on ne sait pas comment y arriver certainement. Et puis, bon, la vie se passe, et puis on fait des rencontres. Et puis là, on est confronté à la je dirais, une sorte de réalité où la personne va arriver à nous sensibiliser
d'envie,
par rapport à ça et nous dire, tiens, voilà, moi, je vais prendre mon cas. Moi, je suis un ancien sportif, j'étais dédié à faire du sport ou autre, et j'ai terminé avec un diplôme en droit des assurances. Ça n'a rien à voir. Mais parce que je suis tombé sur un courtier en assurance qui a pu faire vibrer le fait d'aider les gens, les sécuriser, les machins. Et je retrouvais ces valeurs, effectivement, dans le système d'assurance, de chercher le besoin de la personne.
Ah oui. Mais comme dans un des balados, là, il y a un jeune homme qui dit, lui, qu'il est parti dans un métier qui l'intéresse parce que c'est son père qui l'a inspiré.
Oui,
aussi.
C'est ça. Ce sont des personnes
aussi.
Oui, oui. Puis des fois, c'est des rencontres, c'est du hasard, comme vous le dites, vous, dans votre parcours au niveau du droit des assurances. On a un balado d'une dame qui parle des chiffres au service des gens qui travaillent en finance.
Oui. Oui.
C'est ça.
Et son parcours est très, très, très intéressant parce qu'on voit que au-delà des chiffres, les chiffres sont en contexte avec des gens. Avec une thématique en particulier, et c'est cet aspect-là humain, et les chiffres sont accessoires après.
Ah oui.
Oui, ils servent, parce qu'en assurance, on appelle ça l'actuariat, c'est des statistiques, des probabilités, ou autre. Donc un mathématicien peut très bien travailler en assurance
tout
en se disant, bon, mais c'est pas pour développer des formules mathématiques scientifiques, mais des formules qui vont aider les gens à considérer le risque, le taux, le machin, etc.
C'est ça, on y arrive par un autre biais.
Exactement.
Et on arrive aussi à la fin de cette entrevue, José.
Alors que le temps passe vite.
Ah, déjà, le temps passe vite.
Tu nous désorientes.
Est-ce qu'on a fait quand même un petit peu le tour? Alors j'espère, sinon, allez voir sur le site Futur Proche, allez écouter les balados qui vous intéressent, allez écouter ce qui s'y passe, c'est vraiment passionnant. Et merci beaucoup, José Senneville, pour nous avoir répondu. C'était un vrai plaisir de vous rencontrer.
Ben c'est pareillement, merci pour l'intérêt que vous avez porté, puis je souhaite aux auditeurs une très bonne écoute.
Bonne continuation à vous. On part avec Louis-Jean Cormier qui nous chante « Je me moi ».
Au revoir.
Des beaux crosseurs en complet noir et blanc. Je me moi entre les erreurs des autres. Je me moi et multiplie mes apôtres.
des bombes du bout des doigts sans que personne ne me nomme. D'ailleurs, je me sers du nom de quelqu'un d'autre comme bouclier humain. Tous les lâches qui ne se fâchent jamais ne valent rien. Je m'envoie entre deux résurrections. Je m'envoie et multiplie les.
Voilà, donc c'était nous qui, sommes à la fin de cette émission.
C'était qui le chanteur ?
Louis-Jean Cormier, enfin.
Je connais pas, c'est très psychédélique comme chanson.
Alors, écoute, j'adore ce qu'il fait, moi. J'aime beaucoup ce garçon-là et je souhaiterais le recevoir un jour. C'est la fin. Ça aurait pu être ça aussi. Merci beaucoup, Jamin Chtouki, d'avoir été avec nous. Et merci, bien sûr, à José Senneville, futur proche. Donc, pensez à aller voir sur le site. Pour ceux qui voudraient le voir, donc, vous avez le site web de canalm.vuesetvoix.com. Donc, vous pouvez reprendre l'émission. Et puis, pour ceux qui veulent m'écrire, toujours pareil, c'est Farah Arlette. Donc, il y a deux A qui se suivent. Farah, F-A-R-A, Arlette, A-R-L-E-T-T-E, @gmail.com. Voilà. Merci beaucoup Nicolas. Pour les musiques et pour tout ça. Svartman, Nicolas Svartman, n'oublions pas son nom, c'est vrai, il faut toujours le dire. Bye bye, et moi je vous dis à demain. Et toi, je te dis à la semaine prochaine.
Bye. Bonne semaine à vous.
Au revoir.